Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Il est 18h à Kinshasa, 19h à Kalemi, dans le Tanganyika. Voici les titres de votre journal. La délégation gouvernementale a bouclé sa mission de près de 72 heures à Kwamout, dans la province du Maïndombé. Des résolutions ont été prises dans le but d'apaiser le peuple Teke et Aka en conflit interethnique depuis un certain temps. Dans la province du Tanganyika, le choléra ne faiblit pas à Moba et la prise en charge se fait difficilement. 714 cas, dont 14 décès depuis le début de l'année. Des chiffres révélés par le médecin chef de zone de santé de Moba. L'invité de ce journal est Maître Passimbayo, avocat au barreau du Haut-Katanga. Il répond à une série de questionnements en rapport avec l'assignation d'un détenu à résidence. Quand, pourquoi recourir à ce régime et à quelles conditions? Interview à suivre à la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La délégation gouvernementale qui a séjourné à Kwamout dans la province du Maïndombé pendant au moins 3 jours a pris quelques résolutions dans le but d'apaiser des peuples Teke et Yaka en conflit interethnique depuis un certain temps. La gouverneure de cette province parle notamment du déploiement des éléments FARDC dans tous les coins de ce territoire ainsi que la suspension de son administrateur. Rita Bola fait savoir que la délégation de Kinshasa a assisté les victimes des affrontements qui sont admises dans plusieurs hôpitaux. Elle s'est dit aussi satisfaite du travail qui ont déjà réussi à mettre la main sur l'un des auteurs de ces troubles. Les points avec Irène Boma.
Parmi les résolutions prises par la délégation gouvernementale après les pourparlers avec la population à Kwamout, l'on note entre autres la suspension de l'administrateur de ces territoires et la nomination des nouveaux responsables de la police et de l'Agence nationale des renseignements ANR. Les sanctionnés ont été accusés par la population de complicité et d'avoir traité les conflits Teke-Yaka avec une certaine légèreté. La délégation a aussi appuyé en médicaments les formations sanitaires de Kwamout qui ont reçu des victimes. Une enveloppe importante a été remise pour la prise en charge médicale et alimentaire de ces dernières et pour la prime du personnel soignant. Ces informations sont livrées par Rita Bola, gouverneur du Maïndombe, qui annonce ici l'arrestation d'un assaillant armé.
On a eu une très bonne nouvelle hier. Nos militaires déployés sont tombés sur un des brigands qui faisait le terreur dans un des coins, accompagné de ses deux bandits aussi, surnommé le général Ozé. Il a été transféré aujourd'hui même chez l'auditeur général de Kinshasa. Donc on continue dans
Pour Jean-Rifat Kabeya, un acteur politique de Kwamout, le pourparlers du VPM ministre de l'Intérieur risque de ne produire aucun résultat à cause de la non-participation des peuples Yaka, l'une des parties en conflit. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, la coordination provinciale du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation appelle les groupes armés actifs en province à la patience et à la cessation des exactions contre les populations civiles. Cela en attendant le démarrage effectif du programme dont le processus a déjà été lancé. Le coordonnateur provincial adjoint du PDDRC l'a dit lors de son passage à Beni la semaine dernière. Ndayambadje Soukissa Joseph, en charge des questions techniques et opérations, l'a dit au micro de Radio Okapi.
On a eu à discuter avec quelques partenaires et nous avons choisi des zones d'intervention pour l'encadrement des ex-combattants qui sont à Kalunguta. Notamment, il y a la zone de Masisi à la limite avec Walikale. Il y a aussi la zone de Lubero qui va encadrer Rutshuru, Bwito. Tous vont se retrouver vers Lubero. Nous devons leur parler pourquoi ils ont pris les armes, avec quel objectif. Et c'est ça l'essentiel du programme. C'est avec cette approche que nous allons arriver à démobiliser tous ces groupes armés. Parce que notre projet, c'est communautaire. C'est pourquoi vous me voyez à Beni. C'est pour venir voir ensemble avec des grandes notabilités, voir comment nous tous ensemble, nous allons mettre les batteries en marche pour que les groupes armés puissent comprendre comment trouver la paix. Pas avec agression, mais avec démobilisation. Nous demandons qu'un peu de patience, que chaque Congolais prenne conscience comment abandonner l'arme et prendre un élan de développement. Groupes armés du Nord Kivu, il est temps de construire.
Au Sud Kivu, la MONUSCO et toutes les forces vives de la province réfléchissent sur la nécessité de restaurer et de renforcer les relations de confiance entre elles et les communautés locales. C'est au cours d'un atelier de 2 jours dont les travaux se sont ouverts ce mardi à Bukavu. Ces assises sont présidées par le gouverneur de province du Sud Kivu, en présence de la chef du bureau de la MONUSCO Bukavu, ainsi que des autorités politico-administratives, militaires et coutumières, des représentants des organisations de la société civile dans toute sa diversité et des confessions religieuses. Les détails avec Cynthia Bachizi.
C'est une salle de conférence de l'hôtel Panorama Archicomble avec des participants venus des quatre coins de la province, signe de l'importance de cet atelier dont la tenue part d'un constat, celui d'une confiance perdue entre la MONUSCO et les communautés locales suite aux récentes manifestations dirigées contre elles. Ainsi, trois temps forts ont marqué la séance d'ouverture. D'abord, le discours du maire de la ville de Bukavu, pour qui ces assises permettront de poser les diagnostics de cette confiance rompue, dégager des pistes de solutions. Et quant à Cécilia Piazza, chef de la MONUSCO au Sud Kivu, elle espère que l'analyse conjointe du contexte actuel pourra déboucher sur la formulation et l'adoption des recommandations pour apaiser les tensions et consolider les relations entre les différentes parties prenantes. Enfin, Teongwa Bijekasi, gouverneur du Sud Kivu, a souligné le fait qu'il y avait également des indicateurs positifs de la présence de la MONUSCO et donc il ne faut pas briser totalement cet élan de solidarité internationale, sans oublier bien entendu les préoccupations légitimes du peuple. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Nord Kivu, situation sécuritaire confuse dans le groupement Boabo, en territoire de Masisi. À la base, un conflit foncier qui a opposé hier lundi les propriétaires d'une concession et des autochtones qui occuperaient illégalement la ferme depuis plus d'une décennie dans la localité de Muanga, en secteur Osso-Banyungu. Des militaires dépêchés par le propriétaire de la dite ferme auraient déguerpi les occupants sans délai, affirme une autorité coutumière à Boabo. Bilan, un berger de plus de 60 ans enlevé et plusieurs vaches emportées, d'autres découpées à la machette par les autochtones en colère. Des détails avec Elioka.
Des sources concordantes de la zone révèlent que des militaires probablement envoyés par le propriétaire de la concession ont surgi dans la ferme et ont sommé les personnes qui l'occupent depuis plus d'une décennie de quitter sans délai. Du coup, des échauffourées ont éclaté entre les militaires et les occupants, selon nos sources. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée sur place, mais selon une autorité coutumière à Boabo, en quittant les autochtones, auraient pillé plusieurs vaches et en auraient découpé d'autres à la machette. Ils auraient par la suite enlever le gardien de ses vaches pour l'amener vers une destination inconnue. D'autres sources, par contre, signalent que le matin de ce mardi, au moins 60 vaches ont été récupérées par les militaires qui les ont poursuivies. La société civile de Boabo condamne cette procédure d'expulser la population. Une autorité coutumière du groupement Boabo regrette de voir que ce conflit foncier a encore provoqué le mouvement des populations de Kiché, Morambi, Rubona, Birangiriro, Koet et Bichacha. Dans le groupement Boabo, vers Katoyi et Kanira. Celle-ci demande aux propriétaires des concessions de pouvoir d'abord procéder à la sensibilisation de la population au lieu de les déguerpir sans délai afin d'éviter le pire dans l'avenir.
Dans la province du Tanganyika, le choléra ne faiblit pas et la prise en charge se fait difficilement. Selon le médecin chef de la zone de santé de Moba, depuis le début de l'année, l'on a compté dans cette zone 714 cas, dont 14 décès. Docteur Baruine Moma lance un appel à l'aide aux ONG et à toutes les personnes de bonne volonté. Il a été rejoint par Paul Mounanga.
Nous voyons que vraiment le choléra continue à battre les records, surtout dans l'aire de santé de Kapote et Livoire. On est en train de notifier presque chaque semaine, il y a toujours les cas de choléra. Depuis qu'on a commencé, c'est 714 cas avec 14 décès. Pour cette semaine, nous avons 11 cas de choléra. La prise en charge, vraiment, c'est encore précaire, puisque les intrants sont en quantité insuffisante. C'est la zone de santé ou bien le bureau central qui s'organise pour ravitailler tous les sites là où il y a les cas de choléra. Des partenaires, il y en a, c'est-à-dire c'est un appui partiel. Nous avons seulement Croix-Rouge qui est plus dans les cadres préventifs. Dans les cadres curatifs, vraiment, nous n'avons aucun partenaire. Nous demandons vraiment l'appui, puisque si les gens commencent à mourir comme ça, sans assistance, nous demandons aux gens de bonne volonté, à certains ONG, de nous assister.
Au Kasaï oriental, plus de 500 agriculteurs de 4 sites du territoire de Miabi ont bénéficié ce mardi d'outils aratoires constitués de houes et de machettes. C'est un don de Fondation André Kadima et Ultime Espoir, financé par la présidence de la République. D'après le représentant de ces deux organisations, cette action a pour but d'accroître la production agricole et de lutter contre l'insécurité alimentaire dans ces localités où les habitants s'adonnent plus à l'exploitation minière. Dans l'entretemps, 100 hectares des bénéficiaires de cette dotation sont sont en train d'être labourés gratuitement par les deux organisations. D'autres détails avec Esther Dalafina.
Cette distribution des intrants agricoles a été effectuée au champ, lieu où les agriculteurs exploitent. Pendant ce temps, les champs des bénéficiaires sont en train d'être labourés gratuitement par les tracteurs de ces deux organisations. Les bénéficiaires affirment que c'est une première dans l'histoire. Henriette Kalala remercie les donateurs.
Nous remercions la Fondation André Kadjima et Ultime Espoir. Il y a eu l'amour de notre territoire pour nous aider avec les machettes, les outils, pour travailler des grands champs avec des tracteurs comme nous les voyons ici. La famine, nous n'en aurons plus. Et notre vie même va changer.
L'administrateur de Miabi a sensibilisé les bénéficiaires à ne pas vendre les intrants.
La population de Miabi a trop souffert. J'ai demandé aussi à ma population, parce que c'était une occasion à ne pas arrêter. Nous sommes avec vous, ça fait beaucoup d'années. On n'a jamais reçu les dons pareils. Aujourd'hui, vraiment, il faut être derrière ces projets.
Le représentant des fondations André Kadima et Ultime Espoir a expliqué aux participants le projet conçu pour le Kasaï oriental.
D'abord, une production agricole paysanne de territoire. Et deuxièmement, viendra une assistance à l'amélioration des conditions d'études.
Signalons que les agriculteurs de plusieurs autres localités ont bénéficié gratuitement de ces intrants agricoles. Esther Dalafina, Miabi, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, le passage est libre sur le tronçon routier Kindu-Kibombo. C'est parce que la dynamique Salomon Idi Kalonda DSKD s'est investie dans l'entretien de cette route. Notre reporter qui s'est rendu sur ce tronçon nous parle de l'avancement de ces travaux qui sont exécutés par l'Office des routes grâce au financement de la dynamique Salomon Idi Kalonda. Suivez ce reportage de Florence Kizalunga.
Sur un total de 160 km, les engins de l'Office des routes se trouvent à 95 km. Tous les grands bourbiers qui se trouvaient au PK 37, 75 et 95 sont aplanis, laissant ainsi les passages libres aux utilisateurs de ces tronçons. À ce jour, les gens circulent librement de Kindu au village Lombé-Linganda. Au lieu de 8 heures, les utilisateurs des engins moteurs font maintenant 3 heures du temps sur cette distance de 95 km. Le chef de chefferie intérimaire de Matapa dit merci.
Comme témoignage ici à Dufumadé, il y avait des érosions. Là où même les vaches tombaient et mouraient là même. Mais aujourd'hui, Dieu merci, avec le financement de notre frère Salomon, nous voyons que les histoires vont maintenant très bien.
L'Office des routes garantit toujours la population.
Cet endroit, c'était 17 mètres de profondeur sur cette érosion. La longueur de cet endroit s'évaluait à 350 mètres de long. On était en train de faire maintenant la procédure de prendre les matériaux au niveau des talus et les ramener vers cette or pour avoir ces blocs que vous voyez en monobloc. Là.
Selon Descadé, l'enveloppe allouée pour ces travaux était de 150 000 $, mais à ce jour, ils sont à 250 000 dollars et les travaux continuent. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
L'ONG AfriWatch, spécialisée dans les questions minières, salue la mesure des autorités provinciales du Haut-Katanga interdisant la présence des hommes en uniforme dans les sites miniers artisanaux. Cette ONG dénonce que malgré cette interdiction, des militaires et policiers sont toujours visibles dans les sites miniers. L'ONG AfriWatch demande un suivi pour la bonne application de cette mesure. On écoute à ce sujet Emmanuel Umpula, membre de cette ONG au micro de Jean Gandou.
Nous avons suivi la décision du gouvernement provincial de demander à ce que les militaires quittent les carrières minières. C'est une très bonne décision parce que ces éléments ne devaient pas être dans les mines, ce n'est pas à leur place. Et le fait d'y être donne une mauvaise image à l'exploitation des annales des minerais. Donc nous saluons la décision, mais seulement nous disons que ce n'est pas la première ou la dernière décision. On a plusieurs décisions qui ont été prises dans le même sens. Malheureusement, ces décisions souffrent de leur applicabilité. Les gens ne sont pas sanctionnés. Et comme c'est un moyen pour s'enrichir facilement, donc tout le monde veut aller tirer l'argent à la source. Donc les mines qui ont été concernées, c'est Kimpese et Kapongé, dans les territoires de Kambov, mais on doit avouer que le problème est général et que l'État devait vraiment s'employer pour que les militaires quittent les mines artisanales.
Actualité internationale.
Au Mali, cela fait un an qu'elle est emprisonnée à Bamako. Boiré Fili Sissoko vient d'adresser une lettre ouverte au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. L'ancienne ministre de l'économie avait été arrêtée en même temps que l'ancien premier ministre Soumeilou Boubey Maïga, puis placée sous mandat de dépôt dans le cadre d'une enquête de la justice malienne sur deux dossiers. Et puis le congrès quinquennal du Parti communiste chinois, PCC en sigle, a été convoqué pour le 16 octobre prochain, a annoncé ce mardi la télévision publique chinoise. C'est à l'issue d'une réunion décisive où le président chinois devrait obtenir un troisième mandat à la tête du parti et donc du pays, rapporte l'agence France Presse.
L'invité.
L'invité de ce journal est Maître Passimbayo, avocat au barreau du Haut-Katanga. Il répond à une série de questions en rapport avec l'assignation d'un détenu à résidence. Quand, pourquoi recourir à ce régime et à quelles conditions? Maître Passimbayo s'entretient avec Jean Gandou.
Maître Passimbayo, bonjour.
Bonjour.
Quand peut-on assigner quelqu'un à résidence?
On peut assigner quelqu'un à résidence ou à le placer en résidence surveillée pour plusieurs motifs. Que le droit judiciaire congolais, surtout en ce qui concerne la procédure pénale, il faut dire qu'il est des procédures ordinaires, il est aussi des procédures extraordinaires, puisqu'il faut faire la différence entre le contexte où quelqu'un est placé en résidence sans aucune qualité sociale, surtout dépositaire du pouvoir public, ou surtout pour ceux qui servent sous le drapeau. Mais il y a aussi le cas de ceux qui sont privilégiés de juridiction, couverts des immunités, et puis privilégiés de poursuites, qui sont aussi concernés par une espèce de placement en résidence ou à résidence surveillée, en vertu par exemple de la loi portant procédure devant la Cour de cassation, la loi de 2013. D'ailleurs, dans la loi portant procédure devant la Cour de cassation, l'on essaie de rappeler certaines dispositions des lois ordinaires. Je peux prendre pour exemple l'article 74 de la loi portant procédure devant la Cour de cassation, où on vous dit par exemple que l'officier de police judiciaire ou l'officier du ministère public qui reçoit une plainte, une dénonciation, ou constate l'existence d'une infraction, même flagrante à charge d'une personne qui, au moment de la plainte du constat, est membre du Parlement, transmet. Si je remonte un peu, on dit, par exemple, que les règles ordinaires de la procédure pénale sont applicables à l'instruction préparatoire. Donc, quand on dit ordinaire, ça veut dire qu'il s'agit de la loi judiciaire ordinaire. Ou quand il s'agit des personnes qui sont dépositaires du pouvoir public, qui sont couvertes des immunités, privilégiées des juridictions, et que sais-je encore, il s'agit là d'une question un peu extraordinaire.
Alors, peut-on être à la fois en prison et à résidence surveillée?
C'est difficile d'établir cette question, mais je prends l'exemple de quelqu'un qui a été emprisonné, mais il tombe malade tout en étant en prison, et que l'on constate que pendant qu'il est en prison, on ne sait pas le soigner dans un centre pénitentiaire, on essaye de le sortir tout en étant en détention, on l'achemine vers un centre spécialisé sous surveillance d'un policier ou d'un APJ. L'on peut dire que cette personne, pendant qu'elle est identifiée être à la prison centrale par exemple, mais se trouve spécialement, comme qui dirait, en résidence surveillée pour des raisons de soins.
Mais si on prend l'exemple de l'honorable Jean-Marc Kabound qui devait être assigné à résidence mais que l'on trouve toujours à la prison centrale de Makala mais sous surveillance, y a-t-il une explication plausible qui pourrait être donnée par rapport à ça?
Le droit d'être assigné à résidence pour un député est un droit légal coulé lorsque vous lisez l'article 76 où on vous dit toutefois la Cour de cassation est seule compétente pour autoriser la mise en détention préventive dont elle détermine les modalités de chaque cas. Et puis on dit la détention préventive est remplacée par l'assignation à résidence surveillée. Je pense que la question sous examen peut être comprise dans le retard administratif. Et ça veut dire lorsque le juge de la cassation se prononce sur le placement à résidence surveillée de l'individu qui est député de son état, mais le dossier doit être transmis, j'imagine, au greffe de cette cour-là. Et puis le greffe de la cour doit transmettre le dossier au parquet près cette cour-là. Et le parquet près cette cour-là, par la suite, doit faisabiliser les choses, soit par l'inspection, soit par les divisionnaires du parquet, qui doit cette fois-là organiser le placement de l'individu à résidence surveillée. Je me dis, est-ce que ces tralala administratifs ne sont-ils pas entrés en ligne de compte de ce retard que nous essayons de constater? Le malheur aussi dans notre pays, c'est que le retard de l'administration n'est pas la faute du commettant, n'est pas la faute de l'agent administratif, sauf s'il est établi des questions, par exemple, d'un acte d'omission punissable. J'imagine que cela peut être le cas.
L'assignation à résidence est-elle un régime spécial pour les détenus ou une certaine faveur qui est donnée à X ou Y personne qui soit justiciable?
Relativement à l'article 76 de la loi de 2013 portant procédure devant la Cour de cassation, je peux dire que c'est un régime spécial pour les élus. Mais dans les cas ordinaires, ce sont des choses qui sont à l'appréciation des magistrats, pourquoi pas qu'ils soient debout ou assis. Placer quelqu'un à résidence surveillée n'est pas par principe un régime spécial. C'est d'abord ordinaire. Pour toute procédure ordinaire, c'est là que je vous ai dit tout à l'heure que l'article 76 parle des règles ordinaires de la procédure pénale sont applicables à l'instruction préparatoire. Mais j'ai dit que cette loi de 2013, portant procédure devant la Cour de cassation, a reconnu aux élus le bénéfice de cette assignation à résidence surveillée. Je crois que nous l'avons vécu à un moment donné de l'histoire avec l'honorable Jean-Jacques Mamba, qui est de la même législature que le cas sous examen.
Maître Passimbayo, je vous remercie.
C'était l'invité de ce journal, Maître Passimbayo, avocat au barreau d'Yokatanga, qui répondait à une série de questionnements en rapport avec l'assignation d'un détenu à résidence. Quand, pourquoi recourir à ce régime et à quelles conditions? Je vous rappelle que la délégation gouvernementale a bouclé sa mission de près de 72 heures à Kwamout, dans la province du Maïndombé. Des résolutions ont été prises dans le but d'apaiser les peuples Teke et Aka en conflit interethnique depuis un certain temps. Dans la province du Tanganyika, le choléra ne faiblit pas à Moba et la prise en charge se fait difficilement. 714 cas, dont 14 décès depuis le début de l'année, des chiffres révélés par le médecin-chef des zones de santé de Moba. Fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.